Je voudrais, avant la prière, lire un passage du prophète Ésaïe, au chapitre 13, du verset 9 à 16. Ésaïe 13, du verset 9 au verset 16. Sachez bien que le jour de l'Éternel arrive, jour sans miséricorde, plein d'ardeur et de colère, pour détruire la terre en désolation et en exterminer les pécheurs qui l'habitent. Car les étoiles du ciel et les grands astres parmi eux ne font plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcit dès son lever et la lune ne fait plus luire sa lumière. Oui, je punirai toute la méchanceté du monde et les impies pour leurs iniquités. Je mettrai fin à l'orgueil des fiers et je m'humilierai l'arrogance des violents. Je rendrai les hommes plus rares que l'homme, leur faim. Je les rendrai plus rares que leur d'Ophir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre. Je ferai trembler les cieux et la terre sera écartée de son lieu par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Il en sera d'eux comme de gazelles effarouchées, comme d'un troupeau de brebis que personne ne tient ensemble. Chacun se tournera vers son peuple. Chacun fuira vers son pays. Mais tous ceux qu'on rencontrera encore seront percés et ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Jusqu'ici, jusque-là, cette précieuse et véritable parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit par son prophète Ésaïe en son temps. Cela m'a paru si grand que cet homme ait reçu de Dieu la révélation de choses si puissantes et qui remontent à des temps si lointains. Et nous pouvons dire qu'il voit certaines choses qui ne sont pas encore accomplies aujourd'hui, qui sont encore dans l'avenir. Et peut-être qu'il m'est venu à l'esprit le 12e verset d'Apocalypse 6 et peut-être jusqu'à le 17e verset. Apocalypse 6, verset 12. Je vis encore que lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut un puissant tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Et la lune devint comme du sang. Les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme un figuier jette ses fruits non mûrs quand un vent de tempête le secoue. Les cieux disparurent comme un rouleau qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, les dignitaires et les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils crièrent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » car le grand jour de sa colère et jugement est arrivé. Qui pourra y résister? Oui, nous avons lu ces deux passages bibliques et les deux passages bibliques traitent presque du même sujet. Ils parlent de la même chose et nous voyons bien que de nos jours, le temps est très proche. Mais qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Et là, je voudrais peut-être laisser parler Pierre, ce qu'il dit à ce sujet. Il dit dans 2 Pierre chapitre 3, je vais peut-être encore lire tout le chapitre, mais nous sommes ici pour lire la parole de Dieu, pour la laisser vivre parmi nous, habiter parmi nous, richement, en abondance, et pour qu'elle nous parle. De toute façon, je suis quelqu'un qui ne peut pas résumer et rassembler toutes les choses. Je dis les choses telles qu'elles sont, mais je sais une chose, frères et sœurs, c'est que les choses sont vraies, car c'est la bouche du Dieu Tout-Puissant qui les a prononcées. Et je sais aussi qu'aucun mortel ne peut aligner toutes les choses aussi précisément qu'elles pourraient venir et arriver. Mais le Seigneur, Dieu, fera que les choses qu'il a dites d'avance par ses prophètes et par ses apôtres et par ses saints s'accomplissent. Et c'est lui qui les accompliront. Et nous sommes si heureux de vivre à cette époque où il nous a ouvert les yeux. Mais ici, Pierre continue et dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Voici maintenant la deuxième lettre, bien-aimée, que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller en vous un esprit pur en rappelant ces choses à votre mémoire par cette mise en garde, afin que vous vous souveniez des paroles et restez attachés aux paroles que les saints prophètes ont prononcées autrefois et du commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été communiqué par vos apôtres. Mais vous devez d'abord considérer qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs pleins d'arrogance, des hommes qui marcheront selon leurs propres convoitises et disent, où donc est son retour promis? Oh, je ne sais pas, mais on pourrait rester ici et faire une pause à chaque verset. Je ne vais pas le faire, mais les choses sont si précieuses. Et on pourrait effectivement dire, et on voit bien que nous vivons ces jours-ci, que les gens disent, oui, où est donc passé tout ce que Dieu a dit? Où est donc son retour promis? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous réjouissons que les choses soient écrites comme elles sont, comme elles le sont, et tout ce qui doit arriver, comme cela arrive. Il continue à lire le verset 4. Puisque les pères se sont endormis, tout reste tel qu'il est depuis le début de la création. En effet, en affirmant cela, ils ne tiennent pas compte, le verset 5 maintenant, du fait que dès les temps anciens, il y avait des cieux et une terre qui existaient, faites d'eau et au moins d'eau, par la puissance de la parole de Dieu. Et c'est précisément pour cela que le monde d'alors a péri dans les eaux par submersion. Le ciel et la terre, verset 7 maintenant, actuels, au contraire, sont réservés par la même parole pour le feu. Ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Gloire à notre Dieu. Ces trois passages bibliques s'accordent déjà à 100%. N'est-ce pas merveilleux? Oh, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Il dit ensuite, vous savez, je voulais lire tout le chapitre. Ce sont des paroles si précieuses. Dans un instant, nous allons prier. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur arrive comme un voleur. En lui, les cieux passeront avec fracas. Les éléments se dissoudront dans un feu ardent. Et la terre sera consumée par le feu avec toutes les œuvres des hommes qui s'y trouvent. Puisque tout cela se dissout ainsi, quel doit être chez vous l'état des preuves de sainteté et de conformité avec Dieu? En attendant et en vous tenant prêt pour l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux se fondront dans le feu et les éléments se fondront dans l'ardeur de la flamme. Mais nous, selon sa promesse, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. Et considérez la longanimité de notre Seigneur comme votre salut, comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il en est de même dans toutes ses épîtres lorsqu'il y parle de ces choses. Dans ces textes, cependant, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis déforment à leur propre perte, tout comme ils le font avec le reste des Écritures. Sachant donc cela d'avance, bien-aimés, prenez garde à vous-même, de peur que, entraînés par l'égarement de gens sans conscience, vous ne soyez jetés hors de votre propre et ferme état de foi. Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire maintenant et pour le jour de l'éternité. Jusqu'ici, cette glorieuse et merveilleuse parole de Dieu. Je ne sais pas, j'ai lu la parole chez moi, dans l'Ancienne Alliance et ensuite dans la Nouvelle Alliance. Et tout à coup, il m'est apparu que je devais lire le chapitre 3 de 2 Pierre. C'était venu si grand pour moi. Ça m'a touché. On ne peut pas le décrire avec des mots. Mais je pense que dans ce chapitre, Pierre nous dit beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est si pertinent et si adapté à notre époque et à nous qui vivons maintenant, alors que nous attendons justement son apparition. Il nous appelle en effet à être sans tache et sans reproche devant lui, devant le Seigneur. Et je pense que c'est aussi notre désir, bien mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui et nous voyons le monde entier. Il est sur le point, nous le voyons bien, de s'enfoncer dans l'abîme. Et cela va arriver, comme le disent les Écritures. Cela doit arriver, parce que la parole de Dieu le dit. Or, Pierre ne nous a pas laissés dans l'ignorance, mais il a dit, de plus, bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas négliger. C'est qu'un jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Avec Dieu, le temps est différent de ce que nous, les hommes, imaginons et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous permettre de vivre en ce temps et de nous avoir ouvert les yeux sur sa vérité, sur sa parole. Et nous avons aussi pu lire le 6e sceau dans le livre des sceaux, ce que dit aussi frère Branham à ce sujet. Nous voyons que tout est très proche de la porte. Les prophètes ont peut-être parlé dans l'ancienne alliance. Et ils ont dû attendre longtemps. Et peut-être des gens auraient pu dire à leur époque, « Oui, mais où sont donc les choses que tu as prophétisées? Où donc ces choses arrivent-elles? » Ne t'es-tu pas trompé? N'as-tu pas parlé de toi-même? Ceci et cela. Peut-être les hommes auraient-ils eu de bonnes raisons de s'y accrocher. Mais nous devons garder une chose à l'esprit. Dieu a parlé et personne ne peut le changer. Il a parlé des milliers d'années à l'avance. Qu'est-ce que ça change chez lui? C'est chez lui comme chez nous le jour d'hier. Oui, louange et action de grâce à son nom glorieux. Les frères peuvent aussi venir devant et se résumer. Et le frère Franck pourra alors peut-être en dire plus sur la parole. Mais je ne suis pas en mesure de parler autant, mais que Dieu nous aide. Ce soir aussi, c'est ma prière. Levons-nous donc et prions. Du fond de mon cœur, bien, même en cette heure du soir, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, Seigneur. Mais tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as sauvés. Ô Sauveur, tu as versé ton sang pour nous sur le bois de la croix du calvaire. Et c'est ainsi que nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour te glorifier, pour être fortifié par toi, Seigneur. Nous attendons ta venue. Nous aimons ta parole, Seigneur. Nous voyons dans ta parole, Seigneur, ce qui est à venir, Seigneur, ce qui va venir sur ce monde, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, sur les hommes, Seigneur, qui ne croient pas à ta parole, Seigneur. Mais, Sauveur, nous voulons être prêts pour ton apparition. Nous voulons être prêts, ô Seigneur. Aide-moi, ô Seigneur. Aide tout ton peuple, ô Seigneur. Aide-nous tous qui sommes réunis ici ce soir, dans ton glorieux nom de Jésus-Christ Sauveur. Ne passe pas à côté de nous, Seigneur, mais que ton bon Saint-Esprit, Seigneur, fasse sa demeure, Seigneur Jésus, dans notre cœur, que tu te manifestes, Seigneur, que tu descendes, Seigneur, avec la puisse d'en haut. Ô Seigneur, puisses-tu vivifier chaque cœur, Seigneur, nous avons besoin d'être vivifié par toi. Nous avons besoin de ton esprit, de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta puissance divine, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi ce soir, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, que tu te révèles à nous. Seigneur, nous voulons te louer pour cela et glorifier ton nom, Seigneur. Ne passe pas à côté de nous, mais bénis-nous, ô Dieu. Continue à nous parler. Tu l'as déjà fait, tu as déjà parlé, Seigneur. Mais que tu puisses encore continuer à le faire. Je t'adore. Je te loue, je loue ta grâce. Prépare-nous tous, car nous ne savons pas ce que sera la prochaine étape, mais nous voulons être prêts, Seigneur. Et ça pourrait être que tu nous reprennes à la maison. Et que tu reprennes avant ton retour l'un et l'autre qui t'appartiennent. Mais, Seigneur, nous voulons être prêts. Nous regardons à toi. Nous levons les yeux vers toi. Et te prions instamment, ô Seigneur, d'avoir prié de nous à cause de ton saint nom. Alléluia. Amen. Loué soit le Seigneur, vous pouvez le croire. Je souhaite à tous les frères la priorité de venir et de dire ce que Dieu a mis sur leur cœur. Franchement, il m'est venu à l'esprit que, et cette pensée m'a touché le cœur, m'a inondé, que nous ne sommes pas ici pour parler de la parole de Dieu, mais pour laisser la parole de Dieu nous parler. Tout le monde peut parler de la parole de Dieu. Et on en parle partout. Mais ce qui compte, c'est que la parole de Dieu puisse nous parler. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est donnée. Je dois admettre que j'ai été encouragé à venir devant par la prière de frère Schmitt, parce que pendant ce temps, pendant que le frère Rousse lisait ici, j'ai lu Romains 8, et c'est là que se trouvent les paroles que frère Schmitt a exprimées littéralement dans la prière. Et plus précisément dans Romains 9, verset 28. Car c'est sa parole que le Seigneur accomplira sur la terre en faisant en sorte que les choses se déroulent sûrement et promptement l'une après l'autre. Quelle merveilleuse promesse que celle de l'Éternel, non pas ta parole, non pas ma parole, non pas la parole des hommes, mais sa parole. Et sa parole en ce qui concerne les choses prophétiques, est la parole de la prophétie. Et si nous revenons à Pierre, au même Pierre, juste un autre chapitre, il est écrit, jamais aucune prophétie n'a été faite par la volonté d'un homme, mais des hommes saints ont parlé de la part de Dieu et aucune prophétie de l'Écriture n'admet d'interprétation particulière, arbitraire. Cette notion, aucune prophétie de l'Écriture n'admet, ne permet des interprétations arbitraires, personnelles, particulières. Nous l'avons souvent entendu de la bouche de Frère Branham. Il a dit, Dieu est son propre interprète, et il fait arriver les choses comme il les a annoncées dans sa parole. Mais de ces trois passages de l'Écriture que nous avons déjà entendus en introduction, il était clairement montré ce que Dieu allait faire, va faire. Et si nous lisons maintenant ici, au verset 28, « Car c'est sa parole que le Seigneur accomplira sur la terre, en faisant en sorte que les choses se déroulent sûrement et promptement l'une après l'autre. Les hommes ne sont que des exécutants. Ils n'y sont absolument pour rien. C'est Dieu qui l'a décidé et celui qu'il a choisi pour faire certaines choses doit les faire. Doit être un instrument dans sa main. Si nous pensons à la prophétie, nous pourrions vraiment nous y perdre et nous y fondre à tel point que c'est tout simplement énorme et puissant. J'ai aussi lu très brièvement Ésaïe 24, où les mêmes pensées sont exprimées dès le verset 1, Ésaïe 24, verset 1. Sachez bien que l'Éternel dépouille la terre, qu'il la dévaste, qu'il en défigure l'aspect, qu'il en disperse les habitants. Il en sera du sacrificateur comme de l'homme du peuple, du maître comme de son serviteur, de la maîtresse comme de sa servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme de son débiteur. La terre est entièrement vidée. La terre sera entièrement vidée, entièrement pillée, car c'est l'Éternel qui a prononcé cette parole de menace. Si des hommes avaient prononcé cette parole, nous pourrions nous demander ce qu'il en sera. Mais c'est Dieu qui l'a prononcé et il en sera ainsi. On pourrait continuer à lire ici, mais il est dit au verset 19. En ruine, la terre se brisera, en éclats, la terre s'ébranlera et chancellera. La terre titube comme un homme ivre, elle se balance comme un amas et son iniquité pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Elle tombe et ne se relève plus. Cela a été dit par la bouche du Seigneur ainsi. Elle tombe et ne se relève plus. Mais il ne se relève pas. Mais la bouche de l'Éternel a dit encore autre chose. Il ne s'arrête pas là. Il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles et j'en vis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habite. Et le prophète Ésaïe, déjà, qui a dit ces choses ici ou par l'intermédiaire duquel Dieu a dit ces choses, l'a déjà dit très clairement dans le dernier ou l'avant-dernier chapitre que Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu ne nous laisse pas sans espoir. Il nous dit les choses qui vont arriver, puis il donne à son peuple l'espérance que nous pouvons porter en nous. Où est-il écrit au chapitre 65, au verset 17? Ésaïe 65, verset 17. Car sachez bien que je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, de sorte qu'on n'aura plus à se rappeler les choses anciennes et qu'elles ne reviendront à la pensée de personne. Que Dieu soit remercié pour cela, de ce qu'il y aura un jour, un état où nous ne pourrons plus nous souvenir des choses passées. Sinon, le ciel ne serait plus le ciel et la gloire ne serait plus une gloire. Le temps viendra. Et si cela signifie le passage à l'éternité, que les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront et que l'on ne se souviendra plus des états antérieurs. Tout sera simplement nouveau. Au chapitre 24, ensuite, au chapitre 24, il est écrit ici du verset 21, Ésaïe 24, 21. Mais en ce jour-là, il arrivera que l'Éternel fera rendre compte à l'armée des hauts lieux, dans les hauts lieux, et au roi de la terre sur la terre. Il demandera des comptes à tous, là où ils sont, là où ils sont. L'armée d'en haut, dans les hauteurs, et les rois de la terre sur la terre. Le verset 22, ils seront enfermés ensemble, comme on rassemble des prisonniers dans une fosse et enfermés dans une prison. Je pense déjà à Apocalypse 20, verset 1, qui dit que l'ennemi Satan est saisi et qu'il sera saisi et qu'il... Et pas seulement lui sera saisi. Le prophète Ésaïe ici parle de l'armée d'en haut. Et Paul parle et dit, nous n'avons pas à lutter contre des princes ou contre la chair et le sang, mais contre les princes et les puissances, contre l'armée qui domine dans les airs. Mais à ce moment-là, Dieu réglera leur compte à tous, avec l'armée d'en haut, dans les hauteurs, avec les rois, sur la terre, ici, avec Satan. Il réglera ses comptes avec tout et tous. Et ensemble, ils seront emprisonnés. Et remarquez comment il est encore écrit ici. Il est écrit ici comment on met les prisonniers, rassembler des prisonniers dans une fosse et enfermés dans une prison bien fermée. Et ils ne seront jugés qu'après un long temps. Remarquez-vous ce dont il s'agit ici. Cela se passe avant l'établissement du royaume de 1000 ans. Mais le jugement aura lieu après la fin du règne de 1000 ans. Remarquez-vous avec quelle précision l'Esprit de Dieu a parlé par les prophètes. C'est puissant. Cela pourrait renverser un géant qui se tient sur des jambes saines s'il se rendait compte de la manière dont le Seigneur a parlé. Et il est écrit ici, au verset suivant, pardon, même avec des lunettes, je ne vois plus très bien. Verset 23. Alors la lune pâle rougira et le soleil ardent deviendra pâle, car alors l'Éternel des armées commencera à régner sur la montagne de Sion et dans Jérusalem. Et en face de ses anciens, il y aura une lumière éclatante. N'est-ce pas merveilleux? Ce n'est pas alors que le Seigneur achèvera son règne. C'est alors qu'il l'inaugure. C'est à ce moment-là qu'il l'inaugure. Et savez-vous que c'est la première fois que j'y viens ce soir, maintenant même, à cette parole, car j'ai toujours lu dans Apocalypse 20 que le diable est lié et descendu. Mais je n'ai jamais pensé à l'armée des airs, à ses princes et à ses puissances. Ils seront jugés et abattus abattus en même temps que lui. Donc, descendu abattu en même temps que lui, descendu en même temps que lui. Et ce sera une belle époque. C'est pourquoi dans le royaume... C'est pourquoi ce sera une belle époque dans le royaume de Milan. Mais nous ne pouvons pas entrer dans ces choses aujourd'hui. Mais comme c'est merveilleux que ces choses aient déjà été dites dans l'Ancien Testament. Alors le Seigneur commencera à régner sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Et vous savez, si nous pensons déjà à Jérusalem, nous devrions encore lire rapidement Zacharie 12. Et voici ce qui est écrit au verset 12. Au verset 6, Zacharie 12, verset 6. En ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda semblables à un bassin de feu dans un tas de bois et à une torche de feu dans un tas de gerbes, de sorte qu'ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, mais Jérusalem continuera d'exister dans son lieu à Jérusalem. Mais d'abord, l'Éternel donnera du succès aux tentes de Juda afin que l'orgueil de la maison de David et la fierté des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas contre Juda. En ce jour-là, verset 8, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem de sorte qu'en ce jour-là, le plus faible d'entre eux sera comme David et la maison de David comme la maison de Dieu, comme l'ange de l'Éternel à leur tête. Le jour où tout cela arrivera, et vous savez que la parole de Dieu parle toujours prophétiquement de ce jour-là. Et ce sont des semaines, ce sont des mois, ce sont des années. Mais la parole de Dieu parle du jour. Et nous l'avons entendu et lu dans l'épître de Pierre. Un jour auprès de Dieu est comme nos 1000 ans. Le jour où tout cela arrivera. Ce jour-là, tout ce que nous lisons ici trouvera son accomplissement sous nos yeux tant que nous serons encore là. Nous pouvons être tranquilles. Dieu a toujours tout entre ses mains. Il en est le propriétaire originel et il posera son droit sur tout ce qui lui appartient. Qu'il nous donne la grâce de nous tenir à ses côtés comme il pourrait le faire avec nous et de nous éprouver comme il le voudrait. Je ne sais pas, mais c'est peut-être le lieu de dire que nous devrions vraiment faire attention, de vraiment prêter l'oreille aux prédications qui sont publiées maintenant, de vraiment faire attention à tout. Et je dois honnêtement avouer que j'ai beaucoup traduit durant toutes ces années. Mais autant que ce que ces prédications me donnent maintenant ont à dire, ce n'était pas le cas pendant toutes ces années. Et c'est certainement guidé par Dieu, ainsi qu'il veut s'adresser à nous encore une fois pour pouvoir nous bénir à nouveau. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous n'avons aucune raison d'abandonner en ce moment, mais toutes les raisons plutôt de persévérer jusqu'à la fin. Et d'aller de l'avant dans la foi. Car nous voyons bien que les choses s'accomplissent sous nos yeux. Et si frère Branham a dit, les grandes choses que vous attendez n'arriveront que lorsque la persécution s'abattra sur l'Église épouse. Dans la toute dernière période de temps, il doit ou devait y avoir des choses qui précèdent, qui ont peut-être déjà une influence sur ce temps d'une manière ou d'une autre, ou qui servent de préparation. Mais Dieu, que ce soit à l'égard d'Israël, des nations ou de l'Église, Dieu accomplira chaque promesse qu'il a faite. Nous voyons sous nos yeux que tout se déroule comme il l'a dit. Pourquoi n'avons-nous pas la même foi dans le fait que la parole de Dieu et les promesses faites à l'Église et à l'épouse dans les derniers temps s'accompliront également? Je crois que nous devrions être fortifiés. Ça devrait nous fortifier par le fait que nous savons que nous ne sommes pas des étrangers et de simples spectateurs ou observateurs de ce qui se passe dans le monde entier, mais que nous avons, nous aussi, une place dans le conseil de salut de Dieu et que nous pouvons compter et nous attendre avec une certitude à 100% sur le fait que la parole de Dieu s'accomplira dans l'Église épouse exactement de la même manière qu'elle s'accomplit dans les peuples, les nations, Israël et dans le monde entier. La parole de Dieu s'accomplira aussi véritablement parmi et pour son peuple. Et dans son peuple, et nous tenons à cela et croyons de tout notre cœur que Dieu fera que toutes choses arrivent l'une après l'autre, promptement. Et si nous regardons autour de nous en ce moment, nous pourrions vraiment être effrayés. Mais le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous pouvons parfois incliner nos têtes vers la poussière de laquelle nous avons été pris. Mais après avoir fait cela, il y a en nous une espérance si vivante qu'elle nous fait lever les yeux dans la foi en celui qui nous a aimés et rachetés par son sang précieux et saint. Ce n'est ni avec de l'or, ni avec de l'argent, mais avec son sang précieux qu'il nous a rachetés. Et comme il m'est apparu si grand ce week-end, lui seul a été trouvé digne de prendre le livre et d'en défaire les sceaux. Pour qui? Pourquoi? À qui est-ce que cela a été révélé? Pour le monde? Non. À l'Église épouse du Dieu vivant, au peuple de Dieu, en ces derniers temps. Et ce sont ceux qu'il a rendus dignes de cela. Je ne pense pas être digne d'ouvrir la Bible, non. Mais je sais une chose, celui qui a été digne a pris ma place pour me rendre digne de regarder dans sa parole, dans son conseil de salut. Et nous pouvons nous en souvenir en toute certitude. Dieu ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Bien au contraire, nous vivons après l'ouverture des sceaux. Et nous avons pu regarder à l'intérieur. Et cette pensée que Frère Branham a d'abord exprimée, je ne pouvais pas la comprendre, la saisir lorsqu'il disait, il s'agit du livre de la rédemption. Et il faut bien réfléchir à ce que cela signifie. Mais petit à petit, on arrive à comprendre toutes ces choses. Tous les rachetés dont les noms ont été écrits dans le livre. C'est pour eux que l'expiation a été faite par le sang sur la croix à Golgotha. Et Dieu nous voit à travers le sang. À travers Golgotha, désormais, il nous voit réconciliés, rachetés et reçus sa grâce. Et il dit littéralement qu'il attend que le dernier nom qui y est écrit soit appelé. Alors, le temps de grâce est écoulé et l'agneau quitte le trône du médiateur ou de l'intercesseur pour se présenter comme un lion, comme un roi. Si l'on se plonge dans ces choses et qu'on en jouit, on est alors rassasié intérieurement. Pardonnez ce mot. Au milieu de toute l'agitation, au milieu de tout le tumulte, mais quelqu'un m'a appelé ces jours-ci, et peut-être l'ai-je déjà dit, il m'a demandé, frère Franck, comment vas-tu? J'ai répondu, je suis comme les vagues de la mer. Elles montent et descendent d'une hauteur de maison, mais je me sens quand même comme dans un bateau qui ne peut pas couler, où le Seigneur est le capitaine. Et les vagues peuvent être hautes, hautes et basses. Quand on est dans le bateau, ce n'est pas si terrible. Et s'il est le capitaine, nous pouvons être sûrs d'aboutir dans le port du repos. Quelle grâce! Quelle merveilleuse parole de Dieu avons-nous entendu aujourd'hui? Comment devrions-nous dire au Seigneur? Et je voudrais, pardonnez-moi, le souligner aussi lorsque nous prions, s'il vous plaît, disons vraiment ici très brièvement ce qui brûle dans notre cœur. Et puis le suivant et le suivant, sans laisser de pause. C'est une heure de prière. Et alors, comme un brasier, les charbons s'ajouteront les uns aux autres et un peu de vent d'en haut donnera du feu à ces charbons. Et alors, Dieu bénira. Qu'il soit avec nous tous. Amen.